to this one.
Et on va reprendre. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir deux visiteurs internationaux. Donc le premier qui va présenter aujourd'hui, c'est Ousmane Gaye, donc qui est à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie au Sénégal, à Dakar, le service météorologique de Dakar. Et donc Ousmane Gaye qui a fait sa thèse à l'Université de Columbia, qui travaille vraiment sur la prévision saisonnière et ses applications. Donc c'est ce qu'il va présenter aujourd'hui, prévisibilité saisonnière au Sahel, au-delà de la barrière printanière.
Merci Benjamin, merci à tout le monde. Merci de m'avoir invité, de m'avoir donné cette opportunité de présenter un peu les travaux que je suis en train de faire au niveau de la météo. Je m'excuse auprès de l'audience parce que je pense que j'ai changé un peu de titre, mais c'est pas mal. Je vais parler un peu de ce que j'avais dit, mais je pensais que dans une audience pareille et l'opportunité qui m'était offerte, serait bien de parler de l'application, des choses qu'on est en train de faire sur le terrain. Je pense qu'il y a une continuité au moins, il y a une continuité de la recherche théorique, expérimentale qu'on est en train de faire. Ce que je vais parler concrètement, après avoir un peu expliqué la prévision saisonnière, je vais parler d'une expérience d'application concrète de la prévision saisonnière dans un site qui se situe dans l'ancien bassin arachidier du Sénégal, qui est à Kaffé. Donc, l'information climatique ou les changements climatiques, les variabilités climatiques ont un impact qui s'est avéré. Et ça touche un peu d'une manière pas tellement égale les pays les plus pauvres, certains pays sont les tropiques, les pays sahéliens sont indexés du moins. Et maintenant, toute l'idée est de comment s'adapter, comment prendre l'information climatique comme une opportunité. Et donc j'ai mis cette quotation-là de Kofi Annan, qui parle un peu du changement climatique, la manière dont ça impacte les populations, les peuples, les pays, et le fait de pouvoir s'adapter. Donc quand on regarde le climat de manière générale, l'information climatique, ça touche tous les secteurs. Aujourd'hui, je pense que les premières présentations de ce matin donnent une idée un peu comment l'information climatique touche tous les secteurs. J'ai entendu que Poutine a été nommé encore président. Donc, surtout dans un contexte comme le Sahel, c'est très très important parce que tout dépend un peu de la variabilité des précipitations et aussi des températures. Donc, quels sont les impacts en Afrique de l'Ouest, dans un contexte particulier? L'agriculture en Afrique de l'Ouest est pluviale, ça veut dire dépend, la majeure partie de l'agriculture dépend de la saison pluvieuse. Les gens attendent un peu l'installation de la saison pluvieuse pour faire de l'agriculture. Et maintenant, cette saison pluvieuse maintenant a des variabilités qui sont avérées. Il y a une variabilité sur la saison en tant que telle, la situation de la saison, la quantité de pluie qu'on recueille saison par saison, le début de la saison et la distribution, ce qu'on appelle l'intra-saisonnière. Et tout ça a des impacts sur la sécurité alimentaire, sur la production agricole. Les maladies sont saisonnières en Afrique, tout le monde connaît le paludisme, qui est la maladie qui tue le plus, n'est-ce pas, qui est la transmission vectorielle. Donc il y a un impact du vecteur qui a besoin des conditions environnementales pour se développer, donc un peu en relation avec le climat. Et d'autres maladies liées à l'eau, à l'insécurité. Il y a aussi la gestion de barrages. Quand on regarde un peu l'Afrique de l'Ouest, il y a plusieurs fleuves. Il y a la Gambie, le Sénégal, le Niger, il y a tellement de fleuves. Et le problème de ces fleuves, c'est que les fleuves sont transfrontaliers. Ça veut dire qu'il y a deux pays, à trois, à quatre pays qui se partagent ces fleuves. Donc la gestion pose problème. Comment gérer ces pays? Comment faire que la génération d'énergie se fasse, hydroélectrique se fasse très bien, l'agriculture irriguée, la navigabilité, etc. Donc l'information climatique peut servir là-bas. Et aujourd'hui, tous ceux qui voyagent en Afrique, qui regardent un peu ce qui se passe, c'est que le développement un peu anarchique, ce que j'appelle des villes, les capitales, les bidonvilles qui se développent, les gens se construisent un peu n'importe comment. Et ce qui en résulte, c'est un peu l'inondation qui est en train de se créer sur les grandes villes. Et tout ça, maintenant, il faudrait gérer ça. Et une meilleure gestion, je pense, c'est l'utilisation de l'information climatique. Je vais me présenter maintenant sur l'agriculture. Je laisse un peu les autres secteurs. Pourquoi l'agriculture? Parce que 70% des femmes, 80% des populations au niveau du Sahel tournent autour de l'agriculture. Même si l'agriculture ne contribue pas beaucoup sur le PIB, mais le nombre de personnes qui sont affectées par l'agriculture est important. Quand il y a sécheresse, ça touche tout le monde, n'est-ce pas? L'agriculteur et l'éleveur en même temps. Ensuite, comme je l'ai dit, essentiellement les cultures sont pluviales. Maintenant, ce qu'on a aussi, on a une variabilité des précipitations observée ici sur le Sahel, que j'ai définie un peu en bas. Donc, ce qu'on a, c'est une forte variabilité décadaire, d'une décade à une autre, intra-saisonnière, ça veut dire au sein d'une autre saison, il y a des pauses pluviométriques, des années pluviométriques. Quand on regarde ça, c'est d'une année à une autre, on voit qu'il y a une forte variabilité. Et on regarde qu'il y a un genre de cycle décennal de 10 ans qui est en train de se créer. Et tout ça, quand tu le mets dans un contexte de changement climatique, avec un environnement où les ressources déjà sont limitées, ça montre qu'il faudrait beaucoup planifier. Et ça aura un impact sur les populations et sur les ressources. Donc c'est pour cela que c'est important de parler d'agriculture d'élevage au niveau de cette région-là, à cause de cette forte variabilité-là, à toutes les échelles, temporelles et spatiales. Il y a des efforts qui ont été faits, il faut reconnaître qu'il y a des efforts, beaucoup d'efforts ont été faits. Et un des efforts que je connais bien, c'est la prévision saisonnière, ce qu'on appelle le prévisionnel. Chaque année, au mois de mai, début juin, la communauté météorologique se rencontre, en général c'est avec l'AGMAT, pour voir développer une prévision saisonnière qui est là. Qu'est-ce que ça vaut, ça reviendrait, mais au moins il y a des efforts qui sont là. Je pense qu'aujourd'hui, on a au Prézao 15 cette année, 2012, donc il y a 15 ans d'expérience où les gens font la prévision qui est là. Et ça se voit un peu sur toute l'Afrique. En Afrique de l'Est, il y a beaucoup plus d'expérience, etc. Donc il y a quelque chose qui est là, qui existe sur le terrain. Maintenant, ce que je voulais parler en premier lieu, l'objet de ma première intervention, je vais parler un peu de la réalité scientifique. Ça dit, c'est vrai qu'au Sahel, c'est important d'avoir la prévision saisonnière, mais c'est difficile aussi de faire de la prévision saisonnière. Ça, c'est un exemple qu'on a publié en 2009 pour montrer un peu ce qu'on appelle la barrière printanière. En vert, on a les précipitations simulées par un modèle de circulation général, les modèles météorologiques en général. Et en rouge, c'est ce que nous avons proposé, une méthode de correction des modèles. On sait qu'au Sahel, vu le gradient nord-sud de végétation, vu que l'albédo change beaucoup, vu que les interactions sont multiples à plusieurs échelles, il est très difficile pour un modèle de circulation générale de capter la variabilité des pluies. Mais ce qu'on a découvert, c'est que quand tu regardes le vent, pas seulement regarder les pluies, mais quand tu regardes les vents du modèle, tu verras que le vent capte un peu la variabilité interannuelle. Ça veut dire en fait, les modèles de circulation générale, dû à leur résolution et autre chose ailleurs, ne parviennent pas à produire les précipitations correctement en espace et en temps, mais parviennent à capter la variabilité sur la mousson, sur n'importe quel indicateur que tu vois devant. Donc ici, ce qu'on propose, c'est de dire, au lieu de prendre directement les précipitations du modèle, regardons le vent et essayons de trouver une relation statistique entre le vent et les pluies observées, ce qu'on appelle le MOS, la correction des modèles. Et on propose ici que, pour un cas d'exemple, pour un modèle qui est l'ECAM, on peut vraiment remonter les skips de 0.2 à 0.5, etc. Et on parvient avec les SST de juin de pouvoir prévoir ce qui se passe en juillet ou septembre. Mais la réalité est que si tu utilises les SST observés de mai, là, les skips commencent à, la performance commence à diminuer et d'avril, ça continue à diminuer. Donc il y a ce qu'on appelle une barrière de prédictabilité qui faisait que les prévisions n'étaient pas trop utiles. Quand tu prévois, quand tu fais ta prévision saisonnière, il faut que tu sois le 1er juillet. Et déjà d'abord, les paysans avaient déjà commencé à semer, toutes les activités sont déjà là. Donc ce n'est plus tellement utile à cause de ça. Et maintenant, on a continué les recherches et ce qu'on a trouvé, c'est que il y a des modèles couplés. Couplés veut dire que l'atmosphère n'est pas séparée de l'océan. On parle de tout qui interagissent. N'est-ce pas? L'océan influe sur l'atmosphère, mais l'atmosphère aussi influe sur l'océan. Quand on a ces genres de modèles-là qui sont plus difficiles à tourner, et un exemple c'était le modèle qu'utilise la NOAA, qui est le CFS Climate Forecasting System, on peut bien trouver un très bon skip sur la Sahel, ça sur la période 1991-2008, et on voit très bien que le skip est très très fort. En réalité, en recherche, ce qu'on trouve, c'est que le skip au niveau du Sahel, la performance, ça tourne autour de 0,5-0,6. C'est vraiment là où tu peux aller, pas plus. Et on voit qu'un modèle comme ça, CFS, qui est là, je ne rentre pas dans les détails, parvient à trouver un skip qui est assez acceptable d'avril et de mars. C'est-à-dire, à partir d'avril et mars, on peut trouver un très bon skip et commencer déjà à donner des prévisions qui sont significatives, qui ont une valeur. L'information commence à avoir une valeur. Donc ça, c'est un résultat très, très important sur le Sahel. C'est-à-dire, on peut commencer à développer des stratégies, des planifications déjà en avril, en avoir une idée des prévisions. Donc, ça, je présente aussi les corrections, en d'autre part, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Quelle est l'approche? Ça veut dire que l'information climatique peut servir à plusieurs choses sur le cas de l'agriculture et de l'élevage. Une des choses, c'est que les gens se sont rendus compte qu'il y a le développement avec la population, le boom de la population. Les gens ont besoin de beaucoup plus de terres pour un peu booster la production agricole. Maintenant, cette délocalisation là des champs, ces nouveaux champs-là, il faudrait planifier ça sur des zones qu'on sait que d'ici 10-20 ans, ça peut soutenir encore l'agriculture. Donc là, il faut l'information climatique à ces échelles-là, à l'échelle décennale et à l'échelle de changement climatique. Avant de planter, l'agriculteur a besoin de choisir des variétés, parce que Benjamin en a parlé. Il y a des variétés à cycle court, à cycle long, et ça, il faudrait connaître le début de la saison, la fin de la saison, et avoir une idée de la prévision saisonnière. Parce qu'il y a une forte relation entre la durée de la saison et la quantité de pluie. Donc ça peut servir. Ce que le paysan a besoin, c'est de préparer les champs. Au niveau du Sahel, la saison pluvieuse tourne autour de 4 mois, 3-4 mois maximum. Donc, ce que les gens font, durant la période sèche, ils vont en ville, ils font faire autre chose, le commerce, etc. Donc, ils ont besoin de planifier quand il faut retourner en campagne, quand il faut préparer les champs, etc. Donc, et tout ça, il faut une planification. Donc, il faut une prévision de la date de début de la saison. Ça, c'est important. Une fois qu'on a semé, ce qu'on a besoin aussi, c'est de préparer les champs parce que les sols sont très pauvres avec de l'engrais, etc. Donc, il faut des prévisions à l'échelle de 10 jours, etc. pour voir est-ce qu'il faudrait aller dans les champs, mettre l'engrais ou pas. Parce que si tu mets l'engrais, il pleut beaucoup, ça peut lessiver. Si tu ne mets pas l'engrais, il pleut déjà, ça peut mener des problèmes. Ensuite, au cours maintenant de la culture, il faudrait des actions à entreprendre, binage, etc. Et tout ça, il faudrait bien planifier ça. Il ne faut pas aller au champ, le sol est lourd, etc. Donc, la prévision du temps est importante et des pauses pluviométriques. Bien sûr, il y a le traitement phytosanitaire qu'il faudrait faire. Une fois que la plante commence à pousser, il y a les abeilles ou d'autres types d'espèces qui attaquent la plante. Il faudrait planifier ça. Et en général, l'occurrence de ces espèces-là dépend essentiellement des conditions atmosphériques, à savoir la température, l'humidité et les précipitations, surtout limitées à la température. Maintenant, si d'autres paysans ont les moyens de faire des irrigations pour un peu arrêter la perte due à certaines phases critiques du niveau de la récolte, telle que la floraison, là où il ne faut pas du tout manquer de l'eau, il faut faire l'irrigation, il faudrait aussi planifier cela. Et ensuite, j'ai mis un peu en semencement des nuages à mettre en point d'interrogation. Je le cite ici parce que tout simplement ça existe. Tous les pays en Afrique de l'Ouest font l'ensemencement des nuages. Le Sénégal, le Burkina, le Mali, tous ces pays-là le font et le Niger le faisait. Donc ça existe, c'est quelque chose qui existe qui est là, qu'il faudrait faire avec. On est d'accord ou pas, ça c'est autre chose. Donc il faudrait la prévision du 10 jours. Et même notre observation peut servir dans ça. Ensuite, à la période de récolte, les paysans en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils se regroupent toute la famille pour aller récolter. Donc il faudrait récolter une période où peut-être sèche, pour pouvoir récolter. Ensuite, pour le coton, c'est pas bon quand il fait trop humide, parce que le coton est perdu, etc. Quand il y a trop de vent, quand tu récoltes, tu perds, etc. Et ensuite, le stockage se fait en air libre. Parce que quand le paysan fait sa culture, d'abord, il stocke ça quelque part. Il le met à l'air libre au début, ça sent sec. Ensuite, il le met dans le stockage. Pour cela, maintenant, le vent est l'important, l'humidité, la pluie. Et surtout, après la saison, il y a des pluies hors saison qui sont importantes, n'est-ce pas? Tout ça qu'on appelle les pluies, qui sont importantes à prévoir. Ce que je voudrais montrer ici, c'est que l'information climatique est importante au cours du cycle culturel. N'importe où se trouve, le paysan a besoin de ça. Et ça a une valeur vraiment critique pour les paysans sur le rendement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour engager maintenant? Parce que le fait de savoir ça, c'est une chose. Le fait de pouvoir l'implémenter en est une autre. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est pour identifier les risques liés à la variabilité climatique. Pourquoi je dis identifier pour les risques? Ce que je parle, c'est d'une manière générale pour toutes les cultures. Mais pour chaque culture spécifique, il faudrait voir qu'est-ce qu'il faudrait exactement faire. Il y a des cultures qui sont plus résistantes que d'autres, etc. Une fois que ça s'est fait maintenant, mettre en place ce que j'appelle une approche stratégique, un processus. C'est-à-dire qu'il faudrait intégrer tous les acteurs. Quand on a commencé à faire un peu de l'application, on s'est rendu compte qu'on n'a pas toute l'information. On a une partie de l'information, une partie, supposons, de la solution, mais pas toute la solution. C'est l'approche intégrée où chacun s'y met, c'est là où vraiment ça marche. Les élus locaux, les paysans, les autres services techniques qui sont sur le terrain, les radios rurales pour la communication, etc. Tout ça, c'est important pour pouvoir avoir un peu de succès. Et ensuite, il faut développer un outil d'aide à la prise de décision. Ça veut dire simple, que les paysans peuvent intégrer, peuvent utiliser facilement, peuvent comprendre. Et ensuite, il faut évaluer. Ça nous manque aussi des fois. Des fois, on donne une information, mais on n'était pas préparé pour évaluer. Quels sont les objectifs à évaluer, etc. Ça pose problème. Maintenant, je vais venir sur un exemple très concret que j'ai eu la chance de participer avec un projet qui s'appelle CICAF, Climate Change, Agriculture and Food Security. Au niveau de Kaffrine, on a essayé d'implémenter la prévision saisonnière. On s'est dit qu'il y a des 13, 14, 15 ans de prévision saisonnière. Regardons simplement qu'est-ce que ça peut servir avec les paysans, avec la communauté paysanne. Donc ça, c'était un peu l'atelier qu'on avait fait. Il y avait Philippe qui était là-bas. Donc on avait organisé à Kaffrine. On avait réuni les paysans. Plusieurs paysans, plusieurs organisations paysannes, tous les acteurs, on les a réunis pour essayer de les former en prévision saisonnière. Qu'est-ce que la prévision saisonnière probabilistique? Parce que ce qui est difficile en matière de prévision saisonnière, c'est l'aspect probabilistique. Comment l'interpréter, comment le traduire en conseil pour les paysans? On savait qu'il fallait ne pas partir seul par le climat, donc on avait pris le ministère de l'Agriculture qui développe un peu les stratégies au niveau du Sénégal. On avait pris les volontaires de la Vision Mondiale qui étaient sur le terrain, qui travaillaient. C'est un ONG catholique qui était là, qui aide les paysans, mais qui était important, connu sur le terrain. Ankar qui donne des conseils, Isra qui fait de la recherche. Il y avait des organisations paysannes comme Japando qui sont là politiquement. Il y avait l'organisation des femmes, productrices, etc., cultivatrices, etc. On avait pris tout ce qui semblait important dans ça, bien sûr avec les paysans qui étaient là, et on s'est embarqué dans cette expérience-là. Mais c'est nous, à notre niveau, c'était d'apprendre un peu plus sur les paysans. En Afrique, quand tu viens quelque part pour implémenter quelque chose, il y a des réalités culturelles, sociales qui sont là, qu'il faut tenir compte. Tu ne viens pas si quelqu'un simplement donner que voilà la solution. Tu viens embarquer dans une discussion, dans un partenariat. Donc au départ, on avait dit aux paysans, vous avez fait 20 ans, 30 ans, 40 ans de culture, vous connaissez mieux que nous peut-être les problèmes, on veut apprendre auprès de vous, qu'est-ce que vous faisiez, comment vous faisiez les choses, comment vous faisiez votre prévision. Ils ont commencé à donner des prévisions basées sur des connaissances locales, comme on l'a dit. Et c'était vraiment intéressant de voir, on a listé tout, ils ont parlé des étoiles filantes, etc. Il y a des choses que, en tant que scientifique, tu dis, bon, je ne sais pas moi. Mais il y a d'autres choses quand tu sens nettement qu'ils ont un vécu qui sont là, qui expriment. Supposons, quand on a posé la question, quels sont les indicateurs pour le début de la saison des pluies? Qu'est-ce que vous utilisez pour savoir que la saison va commencer? Un des paysans a dit, c'est quand le vent change de direction pour aller chercher la pluie. Pour moi, je connaissais la mousson, c'était vraiment une définition complète de la mousson. Je n'ai pas vu quelque chose aussi concret. Parce que la mousson, en Afrique, il y a l'harmattan qui est là, et c'est un changement de direction exactement de vent et de caractéristiques. Pour te montrer que les paysans vivent ça, ils connaissent, ils ont ça, mais peut-être qu'on n'a pas encore ce dialogue-là. Et maintenant, on les a écoutés, ça fait une demi-journée, ils ont discuté vraiment, parlé de tout, de leurs connaissances, des choses importantes pour nous, des choses moins importantes, mais c'est comme ça. Le début, les écouter. Après, maintenant, il faut trouver un compromis pour développer, n'est-ce pas, un partenariat, une confiance. Parce que c'est ça qu'il faut, de la confiance, ce qu'on voulait développer. Après, on a expliqué que vraiment, on a choisi parmi les indicateurs, que, des indicateurs qu'on pouvait expliquer. Parce qu'en général, tous les indicateurs, la majeure partie de ces indicateurs, sont en relation avec la température et l'humidité, n'est-ce pas, l'installation de la mousson, en fait. Et maintenant, on les a dit que nous, bon, on a appris ça aussi à l'école. On a des systèmes d'observation, on les a montrés, on peut les pluviomètres. On a des moyens pour capter ça. Vous avez des moyens, nous on a des moyens, les chiffres, les cartes, les satellites, les ordinateurs, etc. C'est là, ça leur donne plus de confiance que nous, on peut faire plus que. Maintenant, mais on n'a pas critiqué leur méthode de faire. On les a dit seulement, continuez votre méthode. Nous, on est venu vous proposer une nouvelle méthode et on va voir d'ici 3-5 ans qu'est-ce que ça va donner. C'était ça vraiment l'approche. Et après, maintenant, il fallait commencer la formation en tant que telle. Donc, on a commencé à un peu les expliquer la prévision, un peu intuitivement, qu'est-ce que ça fait, la probabilité en mettant des boules bleues, boules rouges, 75% quand il y a 4 boules, 3 sont noires, une boule est rouge, quand tu tires, quelle est la chance d'avoir une boule noire, des choses qu'ils peuvent comprendre. Et des fois, tu te rends compte que tu comprends mieux que toi, des fois, la statistique. Donc, parler d'aller sèche, d'aller humide, qu'est-ce que ça signifie pour toi, une normale, qu'est-ce que ça signifie, une probabilité de sécheresse, qu'est-ce que ça signifie, etc. Parler de tout ça, aller à comprendre comment le paysan prend des décisions. Parce que c'est ça la question. Et comment, si on donne une prévision, comment ils peuvent, à part de cette prévision-là, prendre aussi d'autres décisions. Et voyez à droite un peu la récapitulation de ce qu'ils connaissaient, ce qu'ils pensaient. Voici un exemple de discussion qu'on a eu avec les paysans. Là, c'était des groupes de travaux où les paysans étaient là, on discutait avec eux en groupe homogène, où il y avait tous les experts, et on discutait un peu de la prévision, qu'est-ce que ça signifie, etc. Ça, c'est des exercices de démonstration pour montrer qu'ils comprennent quand on parle de quantité, qu'est-ce qu'on veut dire dans ça, n'est-ce pas? Et après, on a fait une formation parce que c'est pas évident que les paysans connaissent un mieux. Par exemple, quand les paysans disaient que on sème quand le sol est mouillé, la question qu'on avait, c'est que comment vous savez que le sol est mouillé? Et tout c'était vraiment intéressant parce qu'ils étaient venus de 6 villages différents, de 6 domaines différents, carrément, et tous étaient mis en accord que. Pour savoir comment le sol est mouillé, il faut creuser et mettre sa main. Et si la hauteur de la lame d'eau, du sol mouillé, dépasse un peu la main, c'est mouillé. Et je me disais, pourquoi? Comment tout le monde peut être d'accord? Et puis on a posé la question, est-ce qu'il y a d'autres choses? Tout le monde a dit, non, il n'y a pas d'autres choses, c'est ce qu'on fait. Tout le monde fait ça, la même chose. Pour te dire. Donc on a fait une formation sur le pluviomètre, pour leur dire, ok, on va vous offrir un pluviomètre, vous allez l'utiliser. Vous allez mesurer l'eau. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie 1 mm? Comment vous allez faire votre. Et on a commencé à faire des formations. On a mesuré 1 mm, on a fait ça sur le sol, on dit voilà ce qu'on peut dire 1 mm, tu as vu 20 mm, etc. Essayez de voir avec eux. Après maintenant, on est venu vous dire, ok, si vous aviez une prévision, que ça soit humide ou sèche, qu'est-ce que vous auriez fait autrement? Vous avez votre part de faire, votre manière de faire. Supposons qu'on est dans l'idéal, on sait ce qui va se passer et on vous donne une prévision humide. Qu'est-ce que vous allez faire autrement? Quelles sont les décisions que vous allez prendre? Et on a regardé que le paysan est capable de faire la différence entre prévisions, quelles sont les aptitudes à prendre pour une prévision sèche et une prévision humide. Et maintenant, ils ont mis beaucoup de choses intéressantes, des choses imaginatives, choisir un cycle court, embaucher beaucoup plus embaucher moins de personnes, acheter moins de fertilisants, etc. Et ça dépend de la nature des paysans. Certains sont là, ils veulent investir. D'autres sont là, ils ont des positions un peu plus conservatrices, etc. Donc, c'est le genre d'exercice qu'on a eu. Et après, maintenant, on est revenu parce qu'on a voulu séparer la formation et la prévision en tant que telle. Après qu'on a formé 33 paysans, on est revenu une semaine après donner la prévision saisonnière. Et voilà exactement ce qui a été donné aux paysans en 2011. Et ça, c'était le 5 juin 2011. Le 8 juin 2011, on les a donné ça à la prévision juillet ou septembre. On les a dit que la qualité prévue sera dans cette gamme-là. N'est-ce pas? Et après, avant ça, on les a bien formés pour les expliquer ce que ça signifie. Et maintenant, si on se trouve maintenant dans le passé, et si on faisait des prévisions, voilà un peu la réalité. Et voilà ce qu'on aurait prévu. En gris, c'est la réalité. Et en rouge, c'est la prévision. Pour un peu qu'ils aient une idée, un peu de s'ils vont croire à cette prévision ou pas. Et maintenant, voilà ce qui est prévu pour 2011. Ça, les a donné ça durant un séminaire de formation d'une journée, les expliquer ça. Et surtout, pour nous, c'était important de dire qu'est-ce que la prévision ne dit pas. Parce que quand tu parles avec eux, il y a une différence entre une bonne année pluviométrique et une bonne année agricole. C'est deux choses distinctes. Donc ça, on parle de pluviométrie, on ne parle pas d'année agricole. Et il fallait éclaircir ces choses-là pour que le paysan puisse comprendre qu'est-ce que la prévision ne dit pas, ne dit surtout pas, n'est-ce pas? Et après cela, maintenant, ils ont utilisé la prévision, certains, d'autres n'ont pas utilisé. Et en janvier, après la prévision saisonnière, on est revenu pour un atelier d'évaluation. Et pour nous, il s'agissait, durant cet atelier-là, de choisir. On a invité 13 paysans qui avaient participé au séminaire d'avant et 13 paysans qui n'ont jamais entendu de la prévision saisonnière. On a pris dans des villages où on était sûr qu'ils n'ont pas entendu de la prévision saisonnière. Bien sûr, on était aidé par le service agricole local qui était là, qui nous a dit qu'effectivement, le service agricole même ne connaît pas la prévision saisonnière. Donc, on savait que les paysans ont peu de chances pour connaître la prévision saisonnière. On nous a posé la question encore, on était sûr. Et on a reparti en groupe. Les 13 qui étaient venus avec nous, qui s'est engagé avec la première formation, on les a posé la question, quels sont les paysans qui ont pris une décision à partir de la prévision saisonnière? Et 13, 12 personnes avaient effectivement pris une décision, n'importe quelle décision, acheter plus, aller à la banque, etc. Chacun en parle de ce qu'il a fait, mais ils ont pris une décision. Et 3 seulement ont reçu la prévision, la formation, n'ont pas pris de décision, pour une raison ou pour une autre. Mais pour nous, c'était intéressant de voir ça, et bien sûr, les 13 paysans. Et chacun était dans un groupe de travail et on a posé la même question, à savoir quelles sont les actions qu'ils ont prises à part de la prévision ou pas, ou autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont choisi de planter, de choisir tel, etc. Qui a guidé ce choix-là? Et ensuite, les problèmes qu'ils ont rencontrés durant cette année, les problèmes surtout liés à la variabilité climatique, etc., autre chose. Et ensuite, des recommandations qu'ils auraient faites à nous, en tant que groupe de travail, qui était le World Vision, l'ANCA et tout le monde, etc. Et ce qui a été ressorti de cette évaluation était qu'ils comprenaient l'importance de l'information climatique. Par exemple, moi, supposons, j'étais là-bas de présenter la prévision saisonnière. Et pour dire vrai, la prévision saisonnière 2011 était une prévision normale à humide. Et ce que j'ai dit, normale à humide. Et l'année était catastrophique, on sait, 2011. Dû à la distribution intra-saisonnelle, qu'on ne pouvait pas prévoir, bien sûr. C'était ça. Mais j'avais insisté en montrant que ce que la prévision n'a pas dit, j'avais insisté en disant que 2011 ne sera pas comme 2010. J'avais insisté, parce que je savais que 2010 était exceptionnel. La Niña, etc., il y avait tous les indicateurs étaient ouverts. 2011 ne pourra pas être comme 2010, ça on le savait, scientifiquement. Et je l'ai dit, j'ai insisté, 2010 ne sera pas comme 2011. Ce sera une année normale à humide, mais pas comme 2011. Ces paysans-là qui étaient formés, ils ont vu que 2010 était parfait comme année, était longue et tout. Ils disent que donc, Michel Météo, comment on nous appelle, a dit que ce ne sera pas comme 2010. Donc, ils vont choisir une variété moyenne, ce qu'ils ont fait. Les 13 qui n'ont pas suivi notre formation avaient dit qu'on a raté de la chance en 2010. 2010, c'est une bonne année, excellente année, on l'a raté. Cette année-ci, on va se préparer. Et être sûr qu'on va profiter de cette année. Donc, ils avaient choisi une variété longue, etc. Et les cultures, ça c'est remarqué sur les cultures. Et entre eux, ils ont discuté, échangé, qu'est-ce que tu as eu cette année, etc. Et ça montre vraiment une différence très nette. Peut-être qu'on l'a eu par chance, peut-être, ou pas, mais il y a une différence très nette de l'information climatique. Et les paysans qui étaient formés avec nous, nous connaissaient personnellement, donc nous envoyaient des téléphones des fois de temps en temps et des SMS, et on était informés. Donc, ça a réellement une valeur ajoutée par rapport à ça. Et ce que je voulais dire en conclusion, ça veut dire, c'est vrai que c'est nécessaire d'avoir des recherches scientifiques, d'avoir des choses très claires, scientifiquement basées, etc. Moi, ce que je pousse, c'est ce que j'essaie de faire peut-être plus, mais ce n'est pas suffisant quand tu veux faire de la pratique. Il faudrait s'embarquer avec des gens. Le partenariat et la confiance, c'est important chez les paysans. C'est très important. Une relation humaine qui te voit, que tu viens parler avec eux, manger avec eux, discuter avec eux, leur demander autre chose, comment va ton fils, ton truc était malade, comment va ton cheval, etc. Ça, c'est important chez eux. C'est très, très important. C'est pas seulement l'aspect science. Et au-delà de cet aspect-là, que nous, nous développons, on aime des publications, on aime avoir des projets, c'est vrai. Parce que c'est peut-être ça qui nous fait avancer. Mais je pense qu'il faudrait aller à l'utilisable. Pas utile simplement, définir une chose parce qu'il y a un skill, il y a une corrélation qui est forte. Mais si c'est utilisable, est-ce que le paysan peut l'utiliser? Et je pense que c'est ça peut-être ma discussion avec Agmat. C'est un peu cette question qu'on ne permet pas à poser. On est en train de faire des choses, mais on ne se pose pas quel est l'impact. Pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire? Le projet doit permettre aux paysans de prendre une décision, de faire une action. Ça doit être très clair, n'est-ce pas, dans ça. C'est vrai qu'il y a toujours un risque, mais il faudrait essayer, dans la communication, la manière dont tu communiques, d'incorporer le risque, n'est-ce pas? Ensuite, savoir que ces genres de choses-là, il y a toujours le risque d'avoir une prévision qui est fausse. Donc, il faut développer le long terme partenariat. Même si on était venu en faisant l'évaluation, les paysans étaient très contents chez nous. Et les autres 13 qui ne devaient pas participer, ils disaient qu'ils voulaient participer. Ils ont fait beaucoup de bruit, etc. Mais on les a expliqué, humblement, que ce n'est pas toujours que ça se passe comme ça. Des fois, on se trompe. Il y a une chance qu'on se trompe. Donc, il faut baser sur le long terme, n'est-ce pas? Il faut baser sur l'approche multidisciplinaire, pluridisciplinaire, savoir que la météo peut donner une chose, mais les gens de l'Encadre, l'Israël, ils ont encore beaucoup d'autres. Ils ont encore un poids sur ça. Il faudrait donc les associer. L'aspect communication, il y a deux sortes. Il y a la communication de ce que tu veux donner en tant que tel. Une prévision probabilistique, il sera humide. Tu as 30% de chance d'avoir une prévision au-dessus de la normale. Comment dire ça aux paysans pour qu'ils comprennent? Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est la dissémination. Comment faire que l'information puisse toucher aux paysans et à temps? Ça, c'est autre chose. Il y a des spécialistes sur ça. Peut-être nous, on communique très mal, mais il y a des gens qui sont vraiment des sociologues, des gens qui travaillent dans la radio rurale, les imams, etc., qui savent comment communiquer tout ça. Et ce que j'ai appris dans tout ça, je pense que c'est un processus qui est dynamique. Le fait d'embarquer avec les paysans, toujours tu apprends quelque chose. Tu penses que tu avais tous les outils nécessaires, tu as développé des modèles, tu as des skills, tu as tout. Mais une fois que tu viens pour communiquer, quand les paysans te posent des questions, tu sens que tu n'as pas la réponse à tout. Et cela, ça c'est important pour nous, de comprendre un peu le processus. Surtout la décision du paysan. Pourquoi le paysan choisit de planter à telle date ou telle date. Un exemple, c'est Marc Café. Les paysans étaient unanimes à partir du 20 juin. S'il ne pleut pas, ils vont semer de 1000 à sec. Le 1000, c'est très facile à semer parce qu'il te faut seulement pour semer tout le champ. Tu peux le refaire. Donc, ils prennent toujours ce risque-là. Et tout le monde était d'accord. Le 20 juin, déjà le 24, etc. Mais tous étaient d'accord que s'il ne pleut pas, jusqu'au 20, on va semer le 1000 à sec et attendre. Mais le maïs ou l'arachide, ils ne vont jamais semer à sec. C'est comme ça. Ils ne peuvent pas. Parce que c'est très difficile. L'arachide est cher. Une fois que tu le sèmes, il faudrait encore refaire encore tout ce travail-là. Ils ne peuvent pas le faire. Donc, voilà un peu ce que je voulais présenter en tant qu'exemple, une manière, une méthode pour utiliser la prévision saisonnière dans un contexte particulier qui est le bassin irrigation du Sénégal.
Je vous remercie.
Vous avez des questions? Merci Ousmane. Vous avez des questions pour Ousmane?
Oui, c'est une question de curiosité, mais ils ont le choix d'espèces à cultiver en fonction des observations, et puis vous dites aussi le choix de variété. Et ce choix, comment il se passe? On va dans un magasin de graines sélectionnées, on fait une demande à l'agronome de secteur. Comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à la variété qui a les caractéristiques que l'on souhaite au moment où on le souhaite?
Oui, c'est un peu complexe. Il y a différentes sortes de paysans, il y a des gros producteurs qui attendent jusqu'à avoir des indicateurs clairs, aller acheter directement. Il y a des semenciers qui sont là, qui sont localement là, ils vont acheter chez eux. Mais en général, le paysan simple, il prépare ce qu'il va semer cette année, en avril, etc. Au moment où il est en train de vendre sa culture, c'est en ce moment-là qu'il prépare une partie pour semer. D'autres, ce qu'ils font, dès qu'ils font la récolte, en septembre, octobre, ils préparent une partie, cette partie-là, je ne vais pas manger ça, je vais laisser ça pour la culture. Mais en général, la majeure partie prennent leur décision en avril. C'est pour cela, cette année, on ne va pas faire la prévision saisonnière en juin, l'atelier en juin, mais on va faire l'atelier en fin avril. Parce que quand ils le font en juin, ils ont déjà sélectionné le tribu, ils ne peuvent pas changer, n'est-ce pas, c'est ça. Maintenant, ce qu'on a fait, ce qu'on a ajouté, et ce qui manquait ici, il y a le service semencier du Sénégal qui est là, qui font des conseils sur ça. On les a associés maintenant au processus. On est parti les voir, leur expliquer que nous, on a la prévision saisonnière qui nous donne une idée pour la longueur de la saison. Est-ce que ça vous c'est une valeur ajoutée pour vous? Ils disent oui. Nous, on réagit, on n'a aucun indicateur. On a seulement ce qui est disponible, on va le donner aux paysans. Et les paysans vont choisir entre long cycle ou cycle court. Si vous donnez cette information-là, ce sera une information de plus qu'on va ajouter. Mais en général, le paysan, ce qu'il sème, il le cultive, mais il le garde dans son serrage.
Thank you, Usman, for this very nice presentation. My question is, information is not like fertilizer or seeds that you can just pass from one hand to another and change. Information is interpreted, and farmers understand what you're going to tell them on the basis of their own experience, what they're interested in knowing, what their own observations might be. How do you know that what you told the farmers is actually what they understood, what they heard?
Boundary organization qui travaille avec nous et maintenant qui parle aux paysans. Nous, on ne donne pas directement aux paysans. Supposons, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu, il y avait des décideurs qui sont là, on sait qu'ils sont des décideurs au niveau local. Les paysans aussi ont des organisations qui sont là, ils ont des leaders. Et on parle à ces leaders-là, on discute avec eux. Et dans cette discussion-là, vraiment, ce qui donne l'information, c'est l'agriculture. Parce que c'est ça qu'ils ont. L'agriculture, c'est eux qui ont le mandat de donner les engrais qui sont subventionnés, de donner les cultures, etc. C'est eux qui sont là, qui représentent l'État. Ce n'est pas notre mandat, nous, à la météo. Donc, nous, notre porte d'entrée, c'est l'agriculture. Ce qu'on fait, quand on fait la prévision saisonnière, il y a des paysans qui sont là. Mais au moment maintenant d'interpréter, à la fin, d'interpréter, nous, on dit que nous, on ne prend pas de risque dans ça. Chaque paysan choisit ce qu'il y sied et puis prend sa propre décision. Et maintenant, dans la compréhension, maintenant, dans l'explication des choses, n'est-ce pas, ça, la prévision veut dire tel, tel, tel. Ça, c'est une discussion qu'on est en train de faire. Et chacun intervient. Encadre, supposons, ils sont très forts en ça. Ils font de l'encadrement, les paysans, ils font des conseils, etc. Ils sont très forts. Eux, ils vont prendre la prévision et dire que voilà, ça, ça va mieux que d'autres choses. Mais nous, on ne le fait pas. Il y a toujours quelqu'un entre nous, le middleman, qui est en train de faire ça pour nous.
Moi, j'ai juste une question purement technique. La prévision saisonnière que vous remettez aux paysans, c'est la prévision qui est faite au niveau régional par ACMAD ou c'est une prévision que vous faites vous au niveau local? Donc, on voit tout de suite, ce n'est pas les mêmes échelles. Hein. Et puis, ce n'est pas du tout aussi la bonne prévision. Est-ce que tu peux nous en dire?
Oui, c'est la prévision qu'on fait au niveau local. Ça n'a rien à voir avec la prévision. Cette prévision-là n'a rien à voir avec la prévision de Prézao. Parce que quand on a discuté aux paysans, on a compris qu'ils pouvaient interpréter le nombre de jours de pluie, ils pouvaient interpréter aussi des prévisions qui dépassent certaines limites, prévisions d'excédents. Donc ce qu'on a fait, des prévisions avec des probabilités de dépassement de certains seuils. Quelle est la probabilité d'avoir 600 mm cette année? Quelle est la probabilité d'avoir 500 mm cette année? C'est des prévisions là qu'on a fait, qui est différente de ce que ACMAD a fait, qu'on a donné aux paysans. Et on a fait aussi la prévision du nombre de jours de précipitation. Parce qu'on pense que c'était beaucoup plus important. Et les recherches montrent, le travail qu'on a fait montre qu'il est beaucoup plus facile de prévoir le nombre de jours de pluie que la quantité. Le nombre de jours est beaucoup plus prévisible actuellement. Donc on a donné ces deux prévisions-là. Mais ce qu'on a fait nous, au niveau de l'annonce, pas celui de l'ACMAD.
Je voudrais revenir sur cette relation avec l'ACMAD. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné d'avoir des prévisions contradictoires? Parce que les outils ne sont pas forcément les mêmes, je veux dire, tu ne vas pas utiliser, tu dis que tu ne fournis pas le même type de variable, mais tu n'utilises pas non plus tout le panel de... Enfin, tu ne fais pas le même processus que fait l'ACMAD pour fournir une prévision consensuelle.
Plus ou moins. J'avais à ma disposition les Heinkas de ECAM, de UK Met Office, etc. Donc en fait, on avait fait genre ensemble. On a fait la prévision en disant nos indicateurs. On avait fait la prévision de CFS. Et j'étais parti à l'internet regarder la prévision de tous les grands centres. Donc j'avais une idée déjà de ça. Donc avant de faire ma prévision. Donc j'étais sûr que le signal de grande échelle est consistant avec le signal qu'on avait. N'est-ce pas? Mais j'avais donné beaucoup plus de poids à ce qu'on a prévu au niveau de CAFE. Parce que dans le cadre de ce projet, ce que SICAF cherchait aussi, c'est de pouvoir démontrer que la prévision saisonnière peut se faire au niveau district, au niveau de village. Donc on avait fait ça. Mais on avait une idée en tête que cette prévision saisonnière était de grande échelle. Effectivement, on a regardé ça. Mais en ce moment, quand on faisait notre prévision saisonnière, Agmat n'avait pas encore fait sa prévision. Donc on ne savait pas ce que l'Agmat allait dire. Mais on a pris la même démarche en regardant les grands centres, etc. Ouais.
Qu'est-ce que l'Agmat pense de cette initiative de sénégalaise?
On va aller demander. Je sais pas.
Moi, j'avais une autre question. Est-ce que vous combinez ces prévisions saisonnières avec les prévisions à 10 jours ou est-ce que pour l'instant vous avez juste fait cet exercice de prévision saisonnière?
Exactement. Cet exercice m'a permis de comprendre que la prévision de onset, et on en a parlé, je pense que c'est ma raison d'être ici dans votre labo, que la prévision de onset est beaucoup plus importante chez les paysans que la prévision saisonnière. En matière de décision, le paysan, ce qu'il veut simplement, c'est quand est-ce que la saison va commencer. Ça, c'est très important pour lui. Beaucoup plus important que le total. Parce que le total ne veut rien dire pour lui, n'est-ce pas? Donc ça, c'est important. Mais cette année, on n'avait pas fait de prévision de début de saison de pluie. Parce qu'on pensait que... Enfin, j'ai pensé qu'il n'y avait pas encore cette recherche scientifique nécessaire, bien basée, pour pouvoir donner une telle information. Malgré que je l'avais fait, hein, avec des indicateurs que je pensais, puis le dipôle atlantique, que je pense que... Le dipôle atlantique gère un peu le mouvement de la ZCIT. Mais pour moi, c'était très tôt encore pour s'engager à ce genre de choses-là. La prévision intra-saisonnière, effectivement, Jean-Philippe Lafort, son équipe, avait développé des indices d'intra-saisonnière. Et cette année, on ne l'a pas utilisé, mais on l'a suivi. Durant toute la saison, moi et Aïda, ce qu'on faisait chaque jour, on regardait ce que son indice donnait, effectivement, ça arrivait ou pas. Et on a fait en commun, ils avaient leur équipe qui était là-bas, qui faisait le truc, et nous, on regardait chaque fois au niveau du Sénégal. Effectivement, on a remarqué cette année, l'expérience qu'on a eue pour cette année, c'est que l'eau précipitable, le PIWAT, est un très bon indicateur. Chaque fois qu'il y a un eau précipitable, il y a un truc là, une élévation de l'eau précipitable, quand tu regardes ça, durant cette période-là, tu verras que c'est une période un peu pluvieuse. Le NGO aussi a donné quelques résultats, mais ce n'est pas tellement truc. Mais on a quelques années, quelques cas où le NGO était vraiment fort, et on a su que sur le Sahel, il y avait vraiment des précipitations qui étaient très fortes. Donc on a regardé ça, mais on n'a pas donné ça comme information. Parce qu'on pense aussi que il ne faudrait pas donner n'importe quoi, il faut être sûr qu'il y a une valeur quoi en faire. C'est pour cela qu'on n'a pas donné, mais on a suivi ça. Et notre idée maintenant, c'est ça, c'est vraiment l'intra-saisonnier. On est entré au niveau de la météo nationale, de développer, de chercher des coopérations, des gens qui travaillent sur l'intra-saisonnier, pour essayer d'implémenter ça. Parce qu'on pense que c'est la chose la plus importante.
Et vous avez insisté sur l'évaluation, parce que vous mettez derrière l'évaluation, avec qui communiquez-vous sur l'évaluation?
Oui. L'évaluation, en fait, il y a un organisme qui s'appelle IPA, qui sont très forts en suivi, évaluation et impact. Ils ont fait les trois. Même moi, je ne savais pas la différence entre suivi, évaluation et évaluation d'impact. Ils disent que c'est deux choses distinctes. Et c'est eux qui l'avaient fait. Mais pour ce cas de figure, qu'est-ce qu'on a fait quand on est venu? Comme nous, la météo, on avait donné la prévision, on t'a dit que ce n'est pas à nous de faire l'évaluation. L'agriculture a aussi son pluviomètre. On avait demandé aux services agricoles de nous donner une idée comment la saison s'est comportée sur le district de Kaffrine, parce que c'est eux qui sont en charge de ça. Donc, ils étaient venus, ils ont dit que les précipitations qu'on avait, il y avait une forte variabilité spatiale cette année. Et toutes les précipitations ont été au moins à la normale. Mais sur le plan agricole, c'était une catastrophe. Parce que les pluies sont arrêtées très tôt, il y avait une pause pluviométrique qui a fait que les récoltes n'étaient pas du tout bonnes. Donc pour nous, c'était ça l'évaluation. Et on avait demandé aux paysans leur propre évaluation à eux. Comment ils pensent que la saison s'est passée? C'est-à-dire, on voulait seulement savoir eux qu'est-ce qu'ils en pensent. Et eux, ils sont venus, chaque paysan a dit carrément ce qu'il pensait de cette année, par rapport à ce qu'on lui a donné, par rapport à la prévision. Bon, la chose qu'on a commencé, on a dit qui se rappelle d'abord de ce qu'on lui avait dit en juin. Donc, un paysan a sorti de son sac vertement la prévision. Il dit qu'il est parti au télécentre imprimer la prévision quand on lui a envoyé ça par email. Il dit que comment son truc. Et puis, il a dit que voilà ce qu'on avait. Et puis, chaque paysan a parlé, effectivement. Et maintenant, on lui a dit que vous pensez que ce qu'on vous avait donné, c'était correct ou pas? Question très simple chez les paysans. Beaucoup ont dit, oui, ici, les précipitations, surtout ceux qui avaient des pluviomètres, parce qu'on avait dû suivre des pluviomètres. Effectivement, moi, j'ai mesuré sur mon pluviomètre, et voilà ce que j'ai obtenu. Ou tel que dit que mon fils mesurait chaque fois, et voilà ce qu'il a obtenu. Et maintenant, c'est cette évaluation qu'on a fait. Mais quand on est venu dans le cadre du projet, les gens nous ont critiqué, mais cette évaluation ne peut pas être, n'est-ce pas, comme une évaluation qui est suffisante, qui est vérifiable. Il faudrait choisir un autre organisme qui est fort en ça. Et il part évoluer maintenant avec nous, nous a montré comment il faut faire. Il faut faire le suivi évaluation d'une part et l'évaluation d'impact sur les paysans en tant que. Ils sont en train de faire ça. Ce n'est pas moi donc que je parle.
S'il y avait
une.
On parle de plus en plus d'enjeux d'essayer de faire de la prévision décennale sur le climat. Qu'est-ce que ça apporterait? Est-ce qu'il y a une attente, au moins, enfin, peut-être pas nécessairement au niveau des paysans, mais qu'est-ce que ça pourrait apporter comme information?
Sur le plan gouvernemental, sur le plan État Sénégal, ça va coûter beaucoup de choses. Parce que les programmes, ce qu'on appelle les grands programmes agricoles, ça c'est d'ici 5 ans ou 10 ans. Les gens disent que le Sénégal peut dire, ok, cette fois-ci, on mise sur le coton. Et on va tout faire miser sur le coton sur les 5 ou 10 ans. Ou miser sur l'agriculture, etc. Et ça c'est important. Sur quoi ils vont se baser pour faire ce genre de choses-là? Ce qu'on appelle la production d'engrais, parce que les engrais sont distribués au niveau des régions. Si on sait que, supposons, ce qu'on pense sur le Sahel, on est sur une phase ascendante, n'est-ce pas? Ces années sont devenues très, très humides depuis les années 90 en commençant. Des 2000 extrêmement, étaient vraiment humides. On pense qu'on est sur une... Et en croyant aussi sur la prévision décennale, que c'est des cycles de haut et de bas, près de 10 ans, 15 ans, 13 ans, 11 ans, etc., on pense qu'on sera dans un autre cycle. Donc ça, c'est très bon en tant que quelqu'un qui planifie comme le gouvernement. Ensuite, le plan des habitations aussi, qui se passe, que, comme j'ai dit, au niveau des pays, c'est bon dans 10 ans de savoir ce qui se passe. Là, il faut construire des routes, les populations à déplacer, etc. Est-ce qu'il faudrait investir maintenant sur les inondations, en sachant que peut-être dans 10 ans, on sera dans une phase sèche ou pas? Ça, c'est important. Mais sur le plan paysan, localement, je pense que les paysans réfléchissent vraiment sur ce qui se passe cette année, ce qui les intéresse le plus. Ils n'ont pas les moyens de pouvoir planifier pour 2, 3, 4, 5 ans. C'est ce que je pense.
Bien, merci Ousmane.
Merci.
On va accueillir maintenant Carla Roncoli, qui travaille à l'Université d'Emory, à Atlanta, aux États-Unis, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de diffusion de l'information, de la prévision climatique, notamment de la prévision de Pressao au Burkina Faso. Qui va nous parler aujourd'hui de la gestion intégrée des ressources en eau, toujours au Burkina Faso.